Alors, nous voilà de retour aux amateurs de sport week-end et c'est le moment de jaser sport business avec Ray Lalonde. Salut Ray.
Salut Jérémy.
Ray, on a quelques sujets qui vont toucher un peu plus Montréal, mais commençons avec un sujet important dans le monde du sport en Amérique du Nord. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui retient le plus l'attention, c'est l'entrée au temple de la renommée de la NBA, du basketball, en fait, de Kobe Bryant, bien sûr décédé il y a quelques années, Tim Duncan et Kevin Garnett, trois monuments du monde du basket qui entre au temple de la renommée ce soir.
C'est une grosse journée. C'est à 15h30 aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés, c'est à TSN et ESPN aux États-Unis. C'est peut-être une des classes, Jérémy, les plus prestigieuses. Je me souviens, en 2009, il y avait eu Michael Jordan avec John Stockton et David Robinson. C'est une grosse année, évidemment, quand Jordan est dans quelque chose. Mais Kobe Bryant, à cause de son décès en janvier 2020, à cause de ses exploits, une renommée mondiale. C'était un gars qui était populaire partout. C'était le suivant après Michael Jordan et avant LeBron James.
Oui.
Nike a beaucoup exploité l'image de marque de Kobe Bryant. Kobe Bryant, son père avait joué au basketball en Europe. Il y avait une grande culture mondiale, beaucoup d'intérêt, en Italie particulièrement. C'est un jeune garçon qui avait été repêché directement du high school à Philadelphie. Il s'est retrouvé repêché par les Hornets de Charlotte qui l'ont transigé le même jour. Alors, les Hornets probablement regrettent beaucoup d'avoir raté l'occasion avec Kobe Bryant. Mais en parallèle, Jérémy, aujourd'hui, c'est l'entrée en scène de Tim Duncan et de Kevin Garnett. Puis Garnett, pour te donner 10 secondes à son sujet, c'en est un autre qui est gradué directement du high school. Farragut Career Academy à Chicago, à 17-18 ans, il s'est joint avec des hommes de la NBA. Écoute, faut vraiment être au-dessus du niveau universitaire pour faire le saut directement d'une gang de jeunes d'école secondaire à la NBA et affronter des hommes. Alors, Kevin Garnett l'a bien fait. Il a joué pour les Timberwolves pendant des années. Il les a conduits en série, mais jamais de championnat. Et Tim Duncan, c'est peut-être le joueur le plus influent, à mon avis, après avoir suivi de près la NBA depuis 25 ans. Jérémy, c'est un gars qui était techniquement impeccable. Mm-hmm. C'est un gars qui a joué ses 4 années universitaires à Wake Forest. C'est un gars qui a été choisi numéro 1 au total et il a livré 5 championnats aux Spurs. Puis les Spurs, c'est probablement la meilleure franchise de sport sur la planète depuis 20 ans. Ils sont toujours aspirants, jamais de controverses, toujours des gagnants qui sortent par là. Un légendaire entraîneur, des gars comme David Robinson, Tony Parker de la France, Manu Ginobili de l'Argentine. Écoute, c'est une équipe qui est le modèle à suivre, certainement pour les équipes nord-américaines de tout sport, à cause de leur constance, à cause de la stabilité de la franchise. Mais c'est une grande journée. Michael Jordan va présenter l'hommage à Kobe Bryant. Son épouse à Kobe Bryant va être là aussi pour faire une allocution assez émotive. Ça va être quelque chose qui vaut la peine d'être vu.
Excellent. Je voulais te parler un peu du dossier des A's d'Oakland, puisque cette semaine, là, ça a refait surface. Là, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, les A's d'Oakland menacent de quitter la région si leur proposition de stade ne passe pas. Ils ont aussi la bénédiction du baseball majeur pour commencer à regarder des sites alternatifs. Leur bail avait dans le vieux Colisée se termine à la fin de la saison 2024. Et c'est sûr que lorsqu'on pense déménagement des A's, on pense pas nécessairement tout de suite à Montréal. Sauf que, écoute, c'est des dominos, là, cette histoire-là. C'est-à-dire que Rob Manfred a toujours dit on veut procéder à l'expansion, mais avant de procéder à l'expansion, il faut régler Oakland et Tampa. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les difficultés présentement des A's, un départ possible, un déménagement possible, et le retour du baseball à Montréal?
Il y a toujours un lien. C'est pas toujours un lien très solide ou très étroit. Mais tu as raison, les A's et les Rays étaient les deux équipes les plus vulnérables. Ils le sont encore. Ces deux formations-là ont de la difficulté localement. Je suis allé voir 2 matchs dans ma vie des A's à Oakland. C'est un stade, évidemment, qui est très désuet. Là.
Ouais, absolument.
Mais j'ai aimé mes journées de baseball parce que j'aime les stades. Mais effectivement, stade construit en 1966, il est temps de changer de stade. C'est pas très moderne, il n'y a aucune raison de rester là. Ils ont présenté depuis 1999, Jérémy, des efforts, mais depuis 4 ans, le propriétaire Fisher a présenté beaucoup d'argent pour arriver avec des propositions de stade. Et c'est toujours rejeté. Alors là, on est rendu à la phase finale. Puis quand une ligue autorise à une équipe de commencer à regarder ailleurs, c'est parce que là, ils ont traversé pas mal tous les obstacles.
Ben, écoute.
Puis ils ont pas de réponse, ça ou traîne, de solution.
Ça traîne depuis toujours. Je peux même pas comprendre qu'on ait été aussi patients. D'ailleurs, quand les Raiders ont quitté le Oakland Coliseum pour s'en aller à Vegas, on disait que ça allait faciliter le dossier pour les A's.
Mais... parce qu'on pensait qu'on était capable de préserver les A's comme étant la dernière franchise à Oakland.
Ouais.
Rappelle-toi, les Raiders ont quitté, mais les Warriors...
ouais.
ont quitté, traversé le pont pour se retrouver de l'autre côté de la baie, à San Francisco, dans un nouvel amphithéâtre qui s'appelle le Chase Center. Ils ont quitté le Oracle Arena où ils ont gagné les championnats. Et pour une bonne chose, pour l'économie de la NBA, l'économie du sport, puis l'économie de cette équipe-là, qui a pris énormément de valeur depuis l'arrivée, par exemple, de Steph Curry, tu sais, il y a une douzaine d'années. Alors, tout ça pour dire que là, les A's sont la seule équipe à Oakland. Et Oakland, pour y avoir été à quelques reprises, c'est une belle ville. Mm-hmm. C'est pas aussi... glamour, si tu me permets, que San Francisco. Mais c'est une belle ville. L'université de Cal Berkeley qui est là, c'est une grande université américaine. Il y a beaucoup de technologie dans ce coin-là des États-Unis, tout le monde le sait. Ça serait dommage que Oakland perde sa dernière équipe.
Ouais.
Ils pensaient, eux, qu'il allait avoir une chance de faire bouger la ville.
Mm-hmm.
Mais ça n'a pas lieu. Alors, dans le sport, Jérémy, il y a trois façons d'obtenir une équipe. Si on est à Montréal ou ailleurs, tu peux soumettre une candidature pour une équipe d'expansion.
Ouais.
Tu peux attendre une relocalisation, comme c'est le cas, et là, payer le prix qui va être un prix ajusté à la hausse pour égaler au moins le prix d'une équipe d'expansion, ou un propriétaire pourrait vendre localement
et déménager
à quelqu'un
son équipe.
Qui dirait, ben garde-la à Oakland.
Mm-hmm.
Puis là, le commissaire autoriserait cette vente-là. Alors, tu sais, c'est pas simple, mais la relocalisation, c'est toujours le dernier choix d'un commissaire parce que ça laisse des traces. Ça laisse une cicatrice dans le marché puis des gens très mécontents de voir leur équipe quitter. Parlez-en à Québec, parlez-en à Montréal avec les Expos.
Exact. Et on sait exactement c'est quoi. Mais à un moment donné, là, écoute, ça fait 5 ans que Rob Manfred a dit pour la première fois, on regarde vers l'expansion, mais on doit régler Tampa et Oakland. Tu sais, ça fait 5 ans. Ça va-tu finir par aboutir, cette affaire-là? Est-ce qu'on va prendre à un moment donné une décision pour dire, OK, on avance, là, parce que on peut pas faire ça éternellement, là?
Mais c'est facile pour un commissaire de, tu sais, de faire des déclarations comme ça puis de s'acheter du temps. Oui. Mais je veux pas critiquer le commissaire ou les commissaires. Mais il faut que tu prennes des décisions.
Mm-hmm.
À un moment donné, il faut que tu tranches. Là, on est rendu là. Tu sais, envoie-la ailleurs, les A's. Règle le cas d'Oakland. Et je me souviens toujours de l'exemple des Grizzlies de Vancouver, Jérémy.
Oui.
Tu sais, moi, quand je pense à des commissaires, je pense toujours à David Stern.
Mm-hmm.
Il n'y avait même pas personne dans sa galaxie à David Stern. Et quand ça a commencé à mal aller à Vancouver, là, ils sont rentrés en 95-96. Écoute, 5-6 ans plus tard, Jérémy, quand il a réalisé que c'est fini, ah ouais, tout de suite, déménage-moi ça, tout de suite à Memphis. Non, mais il n'a même pas hésité. Pourquoi? Parce que là, à un moment donné, il a fallu qu'il prenne une décision. Il a fait même chose avec les Supersonics de Seattle.
Mm-hmm.
Il les a envoyés à Oklahoma City. Là, aujourd'hui, à Seattle, tout le monde pleure pour une équipe de la NBA pour aller avec celle du Kraken. Ils vont peut-être en avoir une autre, mais Stern n'a jamais hésité. Et il a déménagé l'équipe pour le bien-être du propriétaire et de la prochaine ville candidate. Alors, Manfred devrait bouger maintenant.
Oui, je pense qu'il est temps. À un moment donné, il faut mettre il faut que ce dossier-là avance parce qu'on veut de l'expansion. Et là, ben, à chaque année qui passe, ben, on retarde là, le moment où ces frais d'expansion-là vont rentrer dans les coffres du baseball majeur. Changeons maintenant un petit peu de sujet. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi l'actualité dans la MLS, le Crew de Columbus a fait un peu ce que l'Impact de Montréal a fait, c'est-à-dire ils ont annoncé qu'ils allaient changer de nom. Ils allaient garder le nom Crew comme surnom. Chose que le CF Montréal n'a jamais accepté de faire là, avec l'ancien nom Impact. Et là, lorsqu'on a annoncé ça, les gens sont montés aux barricades à Columbus. On voulait appeler l'équipe le Columbus SC. Les gens ont dit ça n'a pas de maudit bon sens. On a un historique, on a un club, on a un nom. Et là, l'équipe est revenue avec une déclaration disant on ne s'attendait pas à ce type de réaction-là. On va revoir nos choses. On va consulter les partisans. Et là, il y a possibilité qu'on revienne sur la décision. Si le Crew revient sur sa décision suite justement à des pressions effectuées par les partisans, est-ce que ça met une pression sur Montréal d'agir de la même façon?
Ben oui et non, Jérémy, mais je vais te dire deux conclusions de ça. D'abord, les partisans ont un gros mot à dire. L'influence des partisans, ça compte pour quelque chose. Puis tu l'envoies un exemple là. Comme tu as vu l'exemple des partisans qui se sont manifestés à la suite de la tentative de la Super League,
mm-hmm.
dans les gros clubs comme Manchester United, Real Madrid,
ouais.
les gens se sont pointés pour protester et ils ont renversé la vapeur face à des milliardaires. Ça, là, c'était assez révélateur comme quoi, si les partisans ne sont pas contents, ils sont pas contents du prix des billets de hockey pour les Canadiens, protestez, achetez-la pas. Mettez-vous pas en ligne pour des ventes. Non, mais c'est comme ça qu'on se fait entendre comme partisans.
C'est vrai.
On peut toujours rester indifférent. Si on n'est pas content qu'il y ait pas assez de joueurs francophones, protestez.
Ouais.
C'est la façon de se faire entendre. Bon, alors, les gens à Columbus ont réagi. Ils aiment le Crew, qui, par ailleurs, est l'équipe championne défendante de la MLS.
Qui rentre dans un nouveau stade en
plus. Ben oui. Alors, écoute, je pense que les gens portent du poids là-dedans, puis le propriétaire n'a pas d'intérêt à tourner sa base de partisans contre lui.
Non.
Alors, il va être attentif. C'est encore le moment pour lui.
Bon,
Montréal, je pense que le train est passé, Jérémy.
Ah ouais, hein?
La réalité, c'est que c'est un peu une comparaison Europe versus Amérique. Je ne sais pas ce que Don Garber puis les propriétaires essaient de faire là, en transformant tout dans du CF, FC puis SC. Là. Mais une chose qui est claire, on peut pas non plus, en Europe, américaniser le produit soccer mondial, puis on peut pas non plus ici européaniser le soccer de la MLS. Ouais. Ça prend un équilibre entre les deux.
Mais
il y a des cultures différentes.
Mais clairement, il y a une volonté de la Ligue, parce que toutes les nouvelles équipes qui rentrent, c'est toutes des FC puis des FC, puis on voit des équipes qui abandonnent leur nom, là, leur vrai nom, comme le Dynamo de Houston, les Timbers de Portland. Ils abandonnent leur nom.
Qui est une marque qui distingue le produit de la MLS. Alors, pourquoi ils le font, Jérémy? Parce qu'ils se disent, ben écoute, plus on va ressembler de l'extérieur à ce qui se passe ailleurs dans le monde, ben, plus les gens vont nous prendre au sérieux. C'est pas nécessairement vrai, ça. Ils vont nous prendre au sérieux quand le produit va être à la hauteur, quand les joueurs vont être de haut niveau, puis ils s'en vont dans la bonne direction, quand les franchises vont prendre de la valeur, puis quand les gens vont nous écouter en termes d'audience télé.
Ouais.
C'est toutes des choses vers lesquelles la MLS travaille, Jérémy.
Bon.
Mais juste changer de nom, là, c'est comme un peu artificiel comme effort.
Ah non, définitivement. Deux autres petites questions. On a finalement dévoilé les salaires des joueurs. Là, ça faisait 2 ans qu'on ne les avait pas eus à cause de la pandémie et tout ça. On apprend que le CF Montréal a une masse salariale de 12 millions de dollars. Ils sont 11e dans la Ligue. C'est Miami qui a la plus haute masse salariale à 17 millions. Est-ce que ces chiffres-là, pour toi, font du sens quand on regarde la business de la MLS?
Ben, la moyenne, c'est 12,2 millions. Puis, tu as un effectif, tu sais, d'une 15 à 20 joueurs au total. Tu as des franchises qui valent 325 à 350 à 400 millions, les Atlanta United, les Seattle Sounders, puis Toronto FC. Tu sais, Jérémy, la Ligue a bien réussi son effort d'une décennie d'expansion. Les équipes valent cher, puis les dirigeants nouveaux payent cher pour les avoir. Moi, je trouve que ce salaire-là, en moyenne 12,2 millions par équipe, c'est raisonnable compte tenu de la valeur de certaines franchises.
Okay.
Mais Inter Miami, Toronto FC, LA Galaxy, ça, c'est pas la même chose que Montréal, CF Montréal, FC Dallas, puis, tu sais, mettons, Philadelphia Union. Ce que je veux dire par là, c'est que ces franchises-là n'ont pas connu le même succès, n'ont pas le même momentum, n'ont pas la même valeur. Mais il essaie de concurrencer avec les plus riches. Mais tu as une marge entre le moins cher à 8,7 puis le plus cher à 17,9. Fait que finalement, il n'y a pas un grand écart là-dedans. Je trouve que dans le sport, il faut toujours faire attention. On veut payer des gros salaires, mais est-ce que les revenus sont au rendez-vous de l'autre côté?
C'est ça. Ben, en tout cas,
pour des équipes comme le CF Montréal,
il n'y en a pas
certain que les revenus sont à la hauteur de payer une masse salariale de à peu près milieu du paquet à 12,2 millions parce qu'on n'a pas non plus eu les succès, on n'a pas de grandes stars. Fait que les preuves sont pas à l'appui qu'on est capable de payer ces sommes-là.
Mais
ça, c'est une décision de la direction de l'Impact, du CF, pardon.
Maintenant, une dernière question. On sait que les contrats de télé dans la MLS se terminent à la fin de la saison prochaine, 2022. Après 2022, il faut tout renégocier aux États-Unis. Et la MLS a demandé aux équipes de ne pas extensionner leur contrat de télé au-delà de la saison 2022. Là, le CF Montréal se retrouve dans une situation particulière parce que leur contrat de télé se termine cette année avec TVA Sports qui paye 5 millions de dollars par année pour les droits de diffusion de l'équipe. Bon, on sait que les cotes d'écoute ne sont vraiment pas excellentes au moment où on se parle. Qu'est-ce qui risque d'arriver avec les droits de télé à Montréal? Est-ce qu'on va extensionner d'une année avec TVA Sports? Est-ce que TVA Sports va vouloir embarquer pour le même montant? Sinon, est-ce qu'on signe ailleurs pour un an? Est-ce qu'on va avoir une année, excusez l'expression, in limbo?
Un entre-deux, là.
Un entre-deux, oui. Comment tu vois ça?
Bien, je ne veux pas me prononcer pour eux, là, mais selon moi, il y a deux options. Tu peux prendre une année pour ajouter au contrat pour essayer de d'arriver à égaler là, le délai, l'échéancier avec le contrat national tel que demandé par la MLS, qui s'apprête à re-signer soit avec ESPN ou à renouveler avec une autre firme, un autre diffuseur comme Fox ou Univision pour le côté hispanique aux États-Unis. Bon, c'est sûr que les attentes de la MLS sont plus élevées. Ils n'ont qu'à regarder ce qui s'est passé avec la NFL dans un ensemble d'ententes numériques et de diffusion qui totalise 110 milliards de dollars pour 11 ans. La NBA a des ambitions d'atteindre 75 milliards, Jérémy, pour 10 ans. Et le baseball a augmenté, puis le hockey est allé chercher 400 millions par année pour les 7 prochaines années d'ESPN.
Oui.
Fait que c'est sûr que la MLS est là sur la ligne de côté. En regardant ça, ils se disent, ben, c'est notre tour bientôt. Soyez patients tout le monde, parce que on ne veut pas nous promettre des clauses ou des éléments, des droits, des propriétés, puis que vous, comme équipe locale, vous les avez donnés à des compétiteurs, puis là, on a des problèmes légaux qui vont s'ensuivre. Moi, je pense que la meilleure chose à faire pour ce club-là, c'est de regarder s'il y a une possibilité tout de suite, pendant qu'on n'est pas au fond du baril, Jérémy, là, mais on est dans le bas, là, on n'attire pas, puis on a de la misère à se mettre en marché, prendre sa place, puis c'est un peu causé par la pandémie. C'est peut-être le temps de dire, écoutez, MLS, nous, on a une situation spéciale à Montréal, est-ce qu'on pourrait pas avoir une autorisation pour signer, renouveler une entente avec nos partenaires et bâtir ensemble avec eux en étant plus généreux sur qu'est-ce qu'on va leur donner sans affecter la relation nationale. Parce que sinon, là, si l'équipe continue de ne pas connecter avec la communauté ici, Jérémy, j'ai peur que les droits ici au Québec valent de moins en moins cher.
Ouais, ça, c'est
parce
certain.
Que l'audience n'est pas au rendez-vous.
Excellent. Merci beaucoup, Ray Lalonde. On se reparle la fin de semaine prochaine. Merci
beaucoup.
Salut,
Jérémy. Salut. Bon samedi.
Bye-bye. Au retour de cette pause, je vous présente un jeune homme qui s'appelle Charles Leblanc, un joueur de baseball du niveau 3A de l'organisation des Rangers du Texas.